écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Stéphane Genest.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est la une de cette édition, évidemment, une large page consacrée à l'élection présidentielle américaine. Les bureaux de vote sont ouverts. Des dizaines de millions d'Américains sont appelés aux urnes pour décider qui, de Kamala Harris ou de Donald Trump, va entrer à la Maison Blanche. Un scrutin sous haute tension et aux enjeux historiques et pour les États-Unis tout comme pour le reste du monde. Et puis ce coup de tonnerre en Israël, Benjamin Netanyahou a limogé son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Le chef du gouvernement israélien estime que la confiance entre eux deux n'était plus d'actualité. C'est donc le jour J aux États-Unis. Les Américains se rendent aux urnes pour l'élection présidentielle. Suspense qui est à son comble. Qui, de Donald Trump ou de Kamala Harris, sera envoyé à la Maison Blanche? La plupart des bureaux de vote ont ouvert, alors que plus de 82 millions de personnes ont déjà voté par anticipation dans ce scrutin qui s'annonce très serré. On est actuellement en Géorgie avec notre envoyé spécial Édouard Maillet. Dans cet état-clé, il y a eu quelques incidents. Certains bureaux de vote ont dû fermer en raison d'alerte à la bombe, Édouard.
Oui, alors je suis en face de l'un des bureaux de vote qui a dû fermer aujourd'hui temporairement, plutôt dans la journée. Une voiture de police vient de partir, une est toujours devant. Il y a toujours quelques... Alors la situation a repris son cours, il y a toujours quelques électeurs qui vont voter et sans grande inquiétude. Un autre employé d'un bureau de vote qui a dû fermer a indiqué que son bureau avait seulement fermé quelques minutes. Alors en fait, plutôt dans la journée, la police a reçu plusieurs menaces dans le comté de Fulton. C'est le comté où se trouve Atlanta et le comté le plus peuplé de Géorgie. Deux bureaux de vote ont été fermés, selon la police, et le secrétaire d'État, l'élu responsable du bon déroulement du scrutin, a expliqué que ces deux menaces pourraient provenir de Russie. Il n'a pas estimé que ces menaces étaient sérieuses, et le FBI, lui, a fait état de plusieurs menaces dans l'ensemble du pays.
Édouard Maillet, en direct de l'État de Géorgie pour RFI. Alors les candidats, eux, ne font plus campagne mais continuent de s'exprimer. Donald Trump se dit très confiant en sa victoire. Il affirme qu'il reconnaîtra sa défaite, si défaite il y a, si l'élection est juste. Fin de citation. Kamala Harris, elle, appelle les Américains à sortir voter parce que tout va se jouer dans les États pivots, notamment la Pennsylvanie avec ses 19 grands électeurs, plus que dans les autres États clés. Reportage à Pittsburgh, devant un bureau de vote signé.
Il est 6h30 à Pittsburgh, devant un bureau de vote en plein centre-ville. Les portes ouvrent dans 30 minutes, mais Tom est déjà là, premier dans la file.
Je pensais que la file serait plus longue. Je voulais être là tôt pour voter tranquillement et pouvoir me rendre au travail ensuite.
Comment vous vous sentez ce matin?
Je suis optimiste. J'espère que ça ira dans le bon sens, mais je suis aussi un peu stressé.
Tom votera pour Kamala Harris, mais il redoute une victoire de Donald Trump. À l'inverse, Scott, lui, est venu pour soutenir le candidat républicain et a tenu à voter en personne pour éviter les fraudes.
Moi, je pense que ça va être un sacré bazar cette année. Je ne veux pas que mon bulletin finisse à la poubelle ou soit brûlé. Alors voilà, c'est mieux de venir en personne, de prendre son temps et de voter.
De son côté, Kim est ravi d'avoir pu exercer son droit de vote pour cette sympathisante démocrate. Les enjeux de cette élection sont énormes.
La liberté, la démocratie. Je suis une femme et j'ai deux filles et j'aimerais qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent de leur corps.
Reste à savoir quand tombera les résultats en Pennsylvanie. En 2020, il avait fallu attendre 4 jours après le scrutin pour connaître le verdict des urnes et le nom du gagnant de l'élection américaine. Joe Biden. Achim Hippolyte à Pittsburgh, RFI.
Les Américains qui votent donc pour cette présidentielle, mais c'est loin d'être le seul scrutin de la journée, puisqu'ils votent aussi, entre autres, pour renouveler le Congrès, toute la Chambre des représentants, actuellement à majorité républicaine, et le tiers du Sénat, à majorité cette fois démocrate. Et certains pensent que le vote d'aujourd'hui pourrait aboutir à un renversement des majorités dans les deux chambres. C'est en tout cas l'avis de Julien Toureille, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand à l'Université du Québec à Montréal.
Un Donald Trump confronté à une majorité démocrate à la Chambre des représentants aurait un effet notamment sur la capacité du président à faire adopter des budgets. La Chambre des représentants, c'est elle qui initie le processus d'examen de toutes les lois budgétaires. Évidemment, si les démocrates ont la main sur celle-ci, ils veilleront par exemple à ce que la réforme de la santé, qui a des dimensions financières, ne soit pas abrogée. On sait que les républicains aimeraient abroger ce fameux Obamacare. Dans le cas où Mme Harris serait élue et qu'elle se retrouve face à un Sénat républicain, elle aurait des difficultés pour faire confirmer ses nominations présidentielles. Donc, dans un premier temps, elle aurait peut-être du mal à constituer son cabinet, hein, son conseil des ministres, parce qu'elle devrait donner des gages aux républicains, elle devrait négocier probablement, mais à plus long terme, elle aurait du mal, par exemple, à faire confirmer des nominations de juges. Et on sait que dans une présidence, ce pouvoir de nomination de juges, c'est quelque chose de très, très sensible qui peut permettre d'avoir des conséquences politiques, sociales, au-delà du terme du mandat qu'on a à la Maison-Blanche.
Julien Touret, qui était l'invité d'Anne Cantner dans RFI Midi et de ce scrutin américain. On en parle évidemment tout au long de la soirée, toute la nuit sur RFI. Rendez-vous toutes les heures pour vos rendez-vous d'information avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux, nos experts. Et puis surtout, à partir de 4h heure de Paris, 3h temps universel, demain mercredi, édition spéciale sur RFI avec Arnaud Pontus. Et puis vous pouvez suivre en temps réel cette journée électorale aux États-Unis sur notre site internet rfi.fr. L'autre titre de l'actualité de ce mardi 5 novembre 2024, c'est la situation au Proche-Orient, puisque l'on vient d'apprendre la mort de 15 personnes dans une frappe israélienne sur un immeuble d'habitation au sud de Beyrouth, la capitale libanaise. Également ce changement de visage à la tête du ministère de la Défense israélienne, Yoav Gallant, limogé par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a donc écarté son ministre de la Défense, estimant que la confiance qu'il avait en lui était, je cite, érodée, Guilhem Delteille.
Oui, les divergences entre les deux hommes étaient de notoriété publique, mais les mots de Benjamin Netanyahou ce mardi soir marquent une rupture désormais totalement consommée. Au début de la guerre, la confiance régnait, le travail était fructueux, a déclaré le Premier ministre israélien. Malheureusement, a-t-il poursuivi, au cours des derniers mois, cette confiance s'est fissurée. Benjamin Netanyahou reproche à son désormais ex-ministre de la Défense des décisions et des déclarations qui allaient à l'encontre de celles prises par le gouvernement. Leurs divergences sont devenues publiques, à tel point, assure-t-il, que nos ennemis en ont joui et ont tiré beaucoup de profit. Yoav Gallant est le deuxième militaire de carrière à quitter le cabinet israélien en 13 mois de guerre en raison de désaccords avec Benjamin Netanyahou. En juin dernier, Benny Gantz, l'un des chefs de file de l'opposition, avait démissionné du cabinet de guerre, exigeant l'adoption d'un plan d'action pour Gaza après la guerre. Le limogeage de Yoav Gallant a été salué par le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, mais dénoncé par l'opposition israélienne. Elle y voit une décision politique qui nuit à la sécurité du pays et met en danger la vie des otages, et des manifestations spontanées ont immédiatement eu lieu dans plusieurs grandes villes du pays.
Les explications de Guilhem Delteille en direct dans ce journal pour RFI. Ce qu'il faut également retenir de l'actualité de ce mardi, c'est ce plan d'aide de 10,6 milliards d'euros, plan d'aide dévoilé par le gouvernement espagnol tout à l'heure pour les dizaines de milliers d'habitants et les entreprises sinistrées du sud-est du pays, cela une semaine après les inondations dramatiques qui ont frappé la région, inondations qui ont fait au moins 219 victimes. En France, le Premier ministre demande des comptes à deux entreprises historiques du pays, au distributeur Auchan et au groupe automobile Michelin. Michel Barnier affirme vouloir savoir ce que ces groupes ont fait de l'argent public qu'on leur a donné. Fin de citation. Michelin a annoncé ce mardi soir son intention de fermer deux établissements où travaillent 1254 salariés. Auchan, pour sa part, a décidé de supprimer 2389 emplois via notamment la fermeture d'une dizaine de magasins. Jusqu'à 15 ans d'emprisonnement infligé à Lille à 18 membres d'un réseau tentaculaire de passeurs de la Manche, principalement irako-kurdes, pardonnez-moi, passeurs qui auraient constitué l'un des principaux réseaux de passeurs de migrants vers l'Angleterre entre 2020 et 2022. Et puis, il y a du sport ce soir et du football, avec la quatrième journée de phase de poule de la Ligue des Champions. Deux clubs français sont en compétition. Le premier, c'est Monaco, qui est en déplacement à Bologne. 8 minutes de jeu, 0 partout. Lille reçoit la Juventus de Turin, également 8 minutes de jeu, 0 partout. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle cette information principale, le scrutin présidentiel aux États-Unis que vous vivrez évidemment en temps réel sur notre site RFI.fr et sur l'antenne de RFI. Pour l'heure 21h10 ici à Paris, couleur tropicale avec Claudie Ciard.